La hussarde.
Salut Caro. Non, t'as l'air concentré. Caro. Oh, enlève ton casque.
Ah, pardon Thomas. J'écoutais des moments de l'épisode 5 sur Mélenchon et la France insoumise. Ça va?
Ouais, très bien. Voilà ton café. Un sucre. Ouais, t'écoutais ça ou alors t'écoutais plutôt une radio concurrente?
Mais non, ça va pas ou quoi? J'écoute que France Inter, moi. J'écoute Quinter. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te demander. Est-ce que je pourrais prendre un selfie avec toi? C'est pour l'envoyer à mes parents. Depuis qu'ils savent qu'on travaille ensemble, ils sont tellement fiers. Ils sont mais tellement fiers de moi. Et du coup, je voudrais leur envoyer une petite photo de nous dans le studio. Ça te dérange pas?
Bah non, d'accord. On va faire ça dès qu'on aura fini le montage de Mélenchon, ok?
Ok. Parce
qu'on est quand même un peu à la bourre. Et d'ailleurs, je voudrais te faire écouter la première archive, l'archive du début. Tu vas voir, c'est une sacrée entrée en matière. Moi, j'adore. Tu me dis ce que t'en penses. Et puis, promis, on fait la photo après.
Ok.
Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En marche, c'est nous.
Ah bah oui, c'est pas mal le montage là. C'est un bon prologue. Mais le truc c'est qu'après, faut expliquer. Et avec Mélenchon, c'est un peu compliqué.
Non, non, tu vas voir, on va mettre l'historique raconté par notre invité, Éric Coquerel. C'est un proche de Mélenchon, il a tout suivi de l'aventure en coulisses et au devant de la scène.
Jean-Luc, il fait partie de la même gauche que moi. Moi, j'étais pas au Parti Socialiste, mais comme vous le dites, on était d'une première gauche qui était un peu productiviste, voilà, ouais. qui ne regardait pas assez du côté écologiste. Bon, quand on a créé le Parti de gauche, il y a des gens comme Corinne Morel-Darleux qui était à l'époque au mouvement Utopia, des gens comme Martine Biard qui sont arrivés. Et au fur et à mesure, c'est pas un hasard si le Parti de gauche disait écologie, république, socialiste. Donc c'est un triptyque important. Par contre, là, vous avez raison, c'est que 2012, c'est une candidature de compromis avec des partenaires. Et donc Jean-Luc, il présente une candidature qui fait attention d'être en centralité, de ne pas dépasser certains équilibres. Sur la question nucléaire, par exemple, on s'entend avec les communistes pour dire on statuera par un référendum. C'est ça l'idée.
En 2012.
En 2012. Et là, cette fois-ci, nous, on se dit, c'est pas possible. On ne peut pas considérer que cette question qui est absolument essentielle, la question du climat, la question de l'environnement, après Fukushima sur le nucléaire, peut rester dans une espèce de zone d'ombre liée à des compromis entre partis. Et donc là, on assume très clairement, et c'est aussi ce que permet justement le fait de se présenter au nom d'un mouvement citoyen France Insoumise et non pas d'un cartel de parti, nous assumons de revendiquer de manière très claire, pleine et entière, non seulement notre écologie, mais notre opposition au nucléaire.
N'est-il pas temps de réorganiser de fond en comble la civilisation humaine? Oui, il faut sortir du nucléaire. Non pour jeter la pierre à ceux qui croyaient bien faire, ni pour culpabiliser ceux qui sont au travail aujourd'hui. Il le faut, parce que nous savons que c'est dangereux. Dès maintenant, nous devons prendre nos dispositions pour changer la civilisation humaine.
Bon allez, on continue sur l'écologie. Pourquoi ce thème est devenu un thème vraiment central dans la campagne de la France Insoumise? Et puis on laisse ma question.
D'accord. On reste sur l'écologie, le climat, l'environnement.
Bah oui, c'est central. Hein.
Oui, tous écolo. Et puis, vive le nucléaire.
Non, c'est un autre problème, le nucléaire.
Bah oui, c'est un autre problème. Puis c'est pas grave, le nucléaire. T'as qu'à voir. Tchernobyl, Fukushima...
Pff. Voilà, t'es écolo, toi. Mais non, depuis 2012, la France Insoumise est vraiment devenue écologiste. Hein. Elle a changé son logiciel. Il y a le PC qui reste nucléariste.
Ah, d'accord.
Bon, ben, enfin, on va pas refaire non plus, toi et moi, le programme de la France Insoumise ici. Puis d'abord, je te signale, c'était quand même l'année dernière.
Quel était votre objectif? Quel était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon en ce début de campagne, en juin? Est-ce que c'était prendre, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, prendre l'ascendant sur le PS? Ou est-ce que c'était gagner?
Bah, il fallait absolument arriver à casser l'hégémonie du Parti Socialiste sur la gauche, contester ce qui lui restait en réalité comme seule arme, le côté appel à vote utile. Bon, donc il fallait être devant le PS. Mais être devant le PS signifiait dans ces cas-là qu'on pouvait aller au deuxième tour. Notre objectif en juin, c'est de gagner les élections présidentielles. Ça a toujours été notre objectif. Donc ça commence graduellement par passer devant le PS à ce moment-là, puisqu'on pense qu'il y aura un candidat PS. Personne n'imagine Macron à ce niveau-là. Et puis donc du coup d'aller au deuxième tour, et au deuxième tour d'être capacité de gagner les élections.
Caro, là on accélère, on va un peu plus loin, jusqu'à la victoire de Hamon à la primaire du PS. C'est bien aussi d'avoir l'autre côté. Tu sais, on avait eu Hanotin qui nous avait expliqué pour Hamon. Et bien là, On a la même histoire, mais depuis la France Insoumise, champ contre champ.
Ok. Donc on écoute l'archive Corbière au téléphone ?
Ouais, et la réponse de Coquerel.
Le téléphone sonne...
Je sais plus, moitié d'après-midi, et c'est un sondeur qui m'appelle et qui a déjà les résultats de cette primaire. Il m'annonce que Benoît Hamon va gagner. Ça, c'était pas un scoop, ça nous semblait assez évident en fonction du premier tour. Mais surtout, il me donne un sondage qui me dit que Benoît Hamon est à 18% et Jean-Luc Mélenchon est à 9%. Alors, je raccroche et j'appelle Jean-Luc pour lui dire ça. Je me souviens, quand je lui annonce, il y a un temps de silence. Jean-Luc me dit, bon, je m'y attendais, je pensais que ça arriverait un peu plus tard, pas aussi vite. Et il y a une nouvelle situation qui s'ouvre. Mais c'est clair que quand Benoît Hamon vient de gagner, il y a quelques jours qui sont pour nous un moment d'observation, d'interrogation. De toute façon, la campagne de Mélenchon était une campagne qui était lucide. Et on a des échanges sur quelles conclusions il faut en tirer. Mais ce qui nous semble, nous, impossible, c'est de croire qu'un candidat va capter l'ensemble de l'énergie qu'on sent dans le pays de cette colère après le gouvernement Hollande, que ce candidat soit un candidat estampillé PS. Ça nous semble impossible.
Est-ce que vous avez eu ce petit moment de doute aussi, quand vous avez vu que finalement le candidat du PS n'était pas un Hollandais pur jus, était un frondeur ?
Moi, je dois avouer que plusieurs semaines ou mois avant, je ne l'ai pas vu venir. Je vais être honnête là-dessus. Hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on avait j'avais sous-estimé ce que nous on appelle la vague dégagiste, qui a été quand même l'élément de cette campagne, quel que soit d'ailleurs le camp politique. Mmh. C'est-à-dire les évidences ont été balayées. Voilà.
Et que Benoît Hamon a subi après.
Et que Benoît Hamon a subi après. Donc on a sous-estimé le fait que des gens allaient servir du bulletin de vote Benoît Hamon pour dire leur refus du quinquennat Hollande à ce point-là. Ça, c'est vrai. Bon. Par contre, après, c'est ce qu'illustre Alexis, c'est-à-dire que on avait une analyse qui était de l'idée de dire il a un problème, Benoît Hamon, qui reste le problème évident, c'est qu'il est le candidat peut-être choisi pour dire non aux années Hollande, mais qui restait aussi quand même, paradoxalement, le candidat d'un périmètre qui allait de Valls à lui. Et que ça, c'était quelque chose qui était contradictoire. Et que cette contradiction, à un moment donné, elle allait l'handicaper dans la façon de pouvoir se présenter, dans la façon de pouvoir assumer un programme jusqu'au bout, par rapport à des gens qui, depuis des années, à travers la candidature de Jean-Luc, eh bien, portaient un programme en rupture, j'allais dire, qui n'avait pas besoin aucune difficulté à la carner, parce que c'était nous. Et ça, je pensais que le balancier allait vite revenir.
Bon, là, c'est le CD, c'est le moment un peu de break. On a eu un gros moment, un long moment d'analyse politique. Il faut se relâcher un peu. Et puis, ma relance, on va vers le moment très science-fiction avec l'hologramme.
Ah ouais, d'accord. Je mets l'archive 5, le meeting hologramme. Mais j'adore. Ça me fait penser à Spock, tu sais. Captain Kirk, tout ça, dans Star Trek, non ? Moi, j'adore, ouais. La téléportation.
Ouais, enfin, bon, là, c'est l'hologramme. Hein. C'est quand même un peu moins has-been que ta référence à Spock. Même si ça reste un show. Hein.
En chair et en os, à Lyon.
Alors, où suis-je ? À Lyon ? Et maintenant, à Paris !
Son hologramme s'affiche à 400 km, prouesse technologique. Des milliers de personnes ont pu écouter en simultané son discours sur la culture, la recherche, la mer, le numérique, l'école. Une façon pour Jean-Luc Mélenchon de cogner Marine Le Pen en meeting à quelques encablures
d'ici. On revient sur mon commentaire quand j'enchaîne après l'archive 6, le meeting de Lille, avec le populisme assumé et le dégagisme. Et puis on va à l'archive 7, Mélenchon sur TF1, c'est le 14 avril.
Ok.
Bonsoir Lille! On m'avait prévenu que Lille était l'un des meilleurs publics de France, visiblement on s'est pas trompé. Hein. On est en direct sur les réseaux sociaux, vous le savez, et sur YouTube notamment avec ce hashtag, ne l'oubliez pas, hashtag JLM Lille. Jean-Luc Mélenchon sera physiquement à Dijon, multiplié par 6 hologrammes. Regardez ce petit extrait qui vous présente une nouvelle fois cet événement.
Pour cela, il faut qu'au moment où le futur semblait avoir fermé ses portes de fer devant vos volontés, à l'instant où se produit ce moment si nouveau que je peux nommer en disant ça s'entend, ça se sent. La victoire est à la portée de nos efforts.
C'est un show. Ça me donne des frissons dans le dos. Non, c'est pas un show, justement. Je suis pas d'accord avec vous. Enfin, si on entend show par spectacle, je crois que ce que je vous disais, c'est-à-dire que il y a une parole forte et qui s'appuie toujours sur quelque chose qui en appelle à la puissance du peuple, c'est-à-dire au désir de permettre son émancipation, sa réflexion. Et oui, Jean-Luc est un orateur comme l'était très certainement, je ne l'ai pas entendu, mais ce qu'on raconte de Jaurès quand il faisait discours auprès Saint-Gervais et qu'à l'époque il n'y avait pas de son, donc il parlait aux gens qui étaient autour de lui, qui répercutaient la parole après.
Vous, président, quel serait à l'Élysée votre premier geste symbolique?
Je crois que le calendrier est assez chargé parce que l'élection a lieu le 7, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Donc le 8, on célèbre la victoire sur les nazis. Donc je vais déjà être bien occupé, j'ai l'impression. Parce que le calendrier d'activité du président élu, pendant un temps, chevauche celui du président en place. Donc je crois que je ne vais pas avoir trop à me soucier de l'emploi du temps.
Si vous êtes élu président de la République, ceci sera votre bureau, l'Élysée. Est-ce que vous comptez également y habiter?
Je ne pense pas. Ou du moins, aussi peu que possible. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'étais logé dans le ministère. C'est une des périodes les plus glauques que j'ai vécu sur le plan personnel, parce que descendre de l'étage pour aller retourner au travail, jamais aucun contact avec personne. Voilà, moi j'aimerais continuer à vivre là où je vis, être présent à l'Élysée et y être, si vous voulez, en payant ma quote-part. C'est-à-dire, j'ai pas besoin qu'on me fasse de faveur. D'abord, j'ai pas besoin de mètres carrés. Alors là où je serai, je veux bien payer mon électricité, mon eau, comme tout le monde. Et bon, voilà, moi j'ai une idée de la vie assez simple. Et je n'ai pas l'intention d'en changer.
Ouais, alors là, c'est le problème. Il ne peut ou il ne veut pas prendre position. Aucune position, aucune indication de vote au second tour. Et puis, on va à l'archive 9 et on reprend ma question sur les éléments de langage, sur les mots que Mélenchon emploie. Quoi.
Et je mets aussi la réponse de Coquerel.
Oui, surtout. Il y était. Il est donc le témoin privilégié pour nous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de consigne de vote. Et puis aussi, cette espèce de théorie du complot.
Ok.
Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir, minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, quels qu'ils soient. Lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. Mon beau pays, ma belle patrie et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce discours, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'aigreur aussi. Selon moi, quelques injustices, hein, les médiacrates, tout ça. Bon, mais ça, bon, on passe. Beaucoup de choses. D'abord, je voudrais revenir sur un détail, les gens. Ça vient d'où, ça, les gens à la place de camarades ou le peuple? Ça vient d'où?
J'ai toujours entendu Jean-Luc avoir cette expression.
En 2012, on n'entendait pas ça.
Si, déjà.
Non, toujours. Il n'y a pas de signification politique.
Non, j'ai toujours entendu Jean-Luc dire les gens.
Il y a autre chose qui me frappe dans ce discours, c'est en tout état de cause, nous respecterons les résultats. C'est quand même incroyable de dire ça. Ça ne va pas de soi.
Non, mais parce qu'il faut le remettre dans le contexte. On se réunit à 19h30 à peu près, et à ce moment-là, les sondages qui arrivent indiquent qu'il est possible que la marge soit de 0,5%. D'accord ? Ça, plus, non pas de l'aigreur, le mot aigreur, vous avez tort, mais une grande déception. pour la patrie, pour le pays, pour la force que nous représentons.
Le ton n'est pas le ton d'un bon perdant.
Non, c'est le ton de quelqu'un de déçu. Enfin, on porte un projet historique, quelque chose où nous estimons que s'il ne passe pas, c'est un vrai problème pour le pays. Donc, ne pensez pas qu'on va prendre ça juste pour comme une compétition sportive. C'est pas de ça dont il s'agit. On parle de choses sérieuses. Et Jean-Luc le porte, l'incarne. Et ne vous étonnez pas qu'à ce moment-là, sa voix, son discours, ce qu'il porte, incarne cette déception, parce qu'on est déçu pour tout le monde. Bien. Donc, ce contexte, donc on pense qu'à 0,5%, et tout le monde nous dit 0,5%, c'est toujours une marge qui est discutable. D'accord ? Et à ce moment-là, il fait son discours. Et donc, ce qu'il veut indiquer en même temps, c'est d'une part, on va attendre les résultats le temps que les chiffres s'affinent, mais d'un autre côté, on ne contestera pas le résultat final, parce que, donc voilà, il veut porter les deux discours. Moi, je dois dire que sur ce moment-là, sur ce discours, j'ai toujours regretté quelque chose. On est tous partis sur les médias les uns les autres. On avait fait une réunion à 19h, les principaux animateurs de la campagne, et on est tous partis sur les médias.
Et donc vous l'avez pas entouré.
Et on l'a pas entouré. On n'était pas avec Jean-Luc, je pense. Et Jean-Luc est quelqu'un d'extrêmement collectif, c'est-à-dire qu'il a toujours besoin d'interroger ceux qui sont autour de lui, d'ajuster. Et par exemple, on en a parlé après.
Ce qui veut dire quand même que vous regrettez un petit peu le ton.
Non, mais je regrette. C'est pas que je regrette le ton, mais c'est que il y a eu, par exemple, il y a une chose qui à ce moment-là, qui est un peu en décalage. Je vous le dis, c'est que en même temps, et ça, nous, on l'a constaté, c'est qu'en même temps, il y a une grande déception, mais en même temps, tout de suite chez les gens qui ont fait la campagne, les électeurs, il y a la volonté de dire c'est pas possible, et on va continuer à se battre. Ce qui fait que je vais vous donner une anecdote. Moi, j'étais à ce moment-là en train de préparer les législatives. On avait des réunions de 25 personnes pour préparer les législatives. Et au lendemain du premier tour, on se retrouve avec 80 personnes, plein de jeunes qui disent que c'est pas possible. Et ça, ce côté-là, c'est-à-dire le côté qui fait pendant à la déception, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'énormité du score que nous venons de réaliser, il n'est pas assez présent. Il n'est pas assez présent parce que, moi, je comprends Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un homme qui, à un moment donné, un responsable politique, se retrouve avant tout devant une occasion manquée pour le pays. Voilà, moi je trouve que c'est, avec du recul, c'est un peu ce que je regrette.
Il y a autre chose dans ce discours, mais on l'a beaucoup commenté, vous êtes expliqué là-dessus, c'est effectivement, pour la première fois, un leader de gauche qui n'est pas qualifié au second tour et qui n'appelle pas à voter explicitement pour celui qui est contre l'extrême droite. Vous en êtes expliqué.
Non, c'est qu'on était expliqué avant, on était d'accord pour pas une voix pour le Front National. Si vous écoutez d'ailleurs tous les responsables le soir, on le dit, hein. Corbière le dit, je le dis sur les médias, on s'est entendu là-dessus. Bon, c'est quelque chose que Jean-Luc rappellera 3-4 jours après, parce que pour la petite histoire, il a été malade pendant 3-4 jours, ce qui explique aussi son silence par la suite. Et il le rappellera que on a un mot d'ordre, c'est pas une voix pour le Front National. Par contre, oui, ça on avait assumé dès le départ que Jean-Luc, en tant que ne s'appartenait plus à lui-même, il appartenait aux 550 000 personnes qui avaient fini la plateforme, et que on ne pouvait pas aller plus loin parce que du coup, on aurait créé une espèce de division. Qui aurait justement enfreint l'efficacité de ce mouvement par la suite.
Et on termine avec le générique juste après ?
Ouais, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone là ?
On avait dit qu'on faisait un selfie, c'est pour faire plaisir à mes parents.
Ah oui, j'avais oublié, ok, le selfie, vas-y.
Alors, tiens, rapproche-toi.
Ouais.
Bah souris un peu, t'es sinistre.
Toujours l'air un peu idiot avec ces sourires convenus sur les selfies. T'es sûr que c'est pour tes parents, c'est pas pour Twitter, tu vas pas mettre ça sur les réseaux sociaux ?
Non, promis, c'est pour mes parents. Regarde, t'as ta maman.
Le moment est venu.
Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire.
J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années.
Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National.
Après tout, personne n'est obligé.
66% contre 34 pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire.
En mars, c'est nous.